Et ça contribue, je pense, à faire que il arrive à jouer sur tout ça avec une certaine virtuosité, je dois dire, dans ses stratégies.
Et aussi, peut-être pour conclure, quand même, je ne sais pas, j'ai peut-être une dent un peu excessive, mais le succès, il est aussi lié au fait qu'il contrarie personne en particulier.
Qu'il a une maison d'édition qui travaille très bien, qu'il a découverte, non, c'est vrai, et qui a très bien su le valoriser, qu'il a eu des formes de transmission de ce qu'il dit très appropriables par les uns et les autres et par des gens très très différents, chacun à leur façon. Et effectivement, ça, c'est pas très subversif en termes de. En tout cas, quel projet d'émancipation? C'est la question que je posais un peu tout à l'heure. Personnellement, je le vois pas vraiment. Voilà, s'il suffisait d'être terrestre pour sauver le monde, ce serait sympa, mais okay. Voilà.
Bon, ça nous va comme conclusion, mais on aura peut-être l'occasion de te réinviter plus tard sur le même sujet. On vous laisse donc pour ce soir, c'est la fin de Jeudi Noir. Alors l'émission est toujours disponible sur notre site jeudinoir.gurdulu.org et on se quitte avec un morceau en lien direct avec le sujet qu'on doit une fois de plus à Nomizno qui s'appelle The Tower.
Musique en lutte.
Dans les mouvements libertaires.
Le mouvement anarchiste.
Une cause militante, presque insurrectionnelle.
Nous sommes battus.
On peut faire de la musique militante tout en faisant de la pop.
La culture peut changer les choses.
Et que ce soit le peuple qui puisse se faire entendre
contre le pouvoir en place.
Des gens qui ont refusé toute autorité d'où qu'elle vienne.
Tous les chefs du gouvernement représentent le pouvoir. Et en politique, le pouvoir est forcément une forme de la lutte contre le peuple. 1, 2, 3, 4.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 FM pour l'émission Musiques en lutte. Ce mois-ci, nous recevons Nathanel Amar pour nous parler de la scène punk chinoise. Mais tout d'abord, commençons par le morceau du groupe The Fly, Life Has Taught Me.
Ciao.
Ciao.
En musique en lutte. Aujourd'hui, on reçoit Nathanaël Amar. Bonjour.
Bonjour.
Donc Nathanaël est l'auteur d'un livre qui est paru en 2022 aux presses universitaires de Rennes et qui s'appelle Scream for Life, l'invention d'une contre-culture punk en Chine populaire. Alors, on va parler de punk en Chine et aussi de la passion de Nathanaël pour cette musique. Peut-être pour lancer l'émission, ce qu'on s'est dit en la préparant, c'est qu'on pouvait essayer de parler plus généralement du rapport entre la musique et l'histoire chinoise au cours du XXe siècle, sans faire un grand exposé, mais au moins d'avoir en tête que les choses sont bien différentes de notre histoire à nous, et aussi d'arriver petit à petit au mouvement punk qui a lui émergé plutôt au milieu des années 90, si j'ai bien suivi.
C'est ça.
Moi j'ai lu le premier chapitre du livre de Nathanaël, et alors je vais pas improviser une longue synthèse, mais ce que j'ai retenu, et tu hésites vraiment pas à me corriger si je me trompe, c'est que l'idée d'une culture chinoise qui soit vraiment au service des masses ouvrières, du peuple chinois, avec un aspect décolonial qui va contre une culture qui serait européanisée, une musique jaune, c'est vraiment quelque chose qui est très présent dans l'histoire du XXe siècle chinois et qui aurait émergé dès les années 20, avant l'accession du pouvoir des communistes au pouvoir en 1949. Et qui a ensuite été imposé par des politiques publiques plus ou moins coercitives tout au long de l'ère Mao, qui est décédé donc en 76, en fonction des enjeux de pouvoir au sein du Parti communiste chinois, à quel point Mao était puissant ou non, des différentes mouvements stratégiques, et du coup, mais que globalement, du coup, il y a eu toute une politique publique pour déseuropéaniser la culture, la maîtriser et en faire l'outil qui permet au peuple chinois d'agir de manière unie comme une nation ouvrière victorieuse, quoi. Quelque chose un peu comme ça, je ne sais pas si c'est les bons mots.
Il y a quelque chose comme ça, et en même temps, on parlait de déseuropéaniser la culture, en même temps l'influence européenne est même très présente, même dans ce mouvement en fait, de désoccidentalisation, si on veut, de la culture à partir du maoïsme. C'est-à-dire que, par exemple, le compositeur qui a fait l'hymne national chinois, la Marche des Volontaires, est aussi un compositeur qui a été extrêmement influencé par la musique européenne au début du XXe siècle, et qui composait, en fait, à la base, des chansons pour des films à Shanghai, des chansons populaires pour des films à Shanghai, avant de composer des chansons plus militantes et de faire cette chanson-là qui est, en fait, tirée d'un film. La Marche des Volontaires est tirée d'un film qui s'est déroulé à Shanghai. Donc en fait, cette collusion un peu entre musique populaire, peut-être commerciale, et musique militante, et la distinction est parfois très tenue, en tout cas au début du XXe siècle, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de gens qui vont être des compositeurs dans des films commerciaux shanghaïens et qui vont être ensuite inscrits au Parti communiste. Le contraire aussi, hein, on a beaucoup de compositeurs qui participent en fait à des films commerciaux et qui vont être par la suite aussi très critiqués par le Parti communiste, certains vont être emprisonnés. Donc voilà, cette distinction est toujours un peu compliquée, mais c'est vrai qu'à partir d'un certain moment, on a voulu faire de la culture, pas que de la musique, hein, du cinéma, le théâtre, les représentations, au service du parti et du peuple, pendant les moments où Mao était dans son bastion, son fief à Yan'an. Il a fait un discours qui est très connu sur la littérature et l'art, où il disait que voilà, la littérature et l'art, et la musique aussi, devaient être au service du peuple et non plus au service des intellectuels eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il fallait parler au nom des masses à travers la culture.
Et ça, c'est en 1942, c'est ça ?
Ça, c'est en 1942, et ensuite, à partir de l'accession de Mao au pouvoir en 1949, enfin, quand les communistes prennent le pays véritablement, on va avoir des politiques effectivement culturelles qui vont en fait dans ce sens-là. On va avoir aussi des purges de certains intellectuels pendant les différentes campagnes qui ont jalonné le maoïsme, et jusqu'à, je pense que l'acmé, c'est un peu le moment de la révolution culturelle, entre 66 et 76. Il y a la bande des quatre, voilà, qui prennent un peu en charge le pays.
Mais ça, c'est des proches de Mao.
C'est des proches de Mao. En gros, c'est dirigé par la femme de Mao, qui s'appelle Jiang Tin. Et en gros, qui vont essayer, en fait, de modeler un peu la culture pour que ça soit aux ordres, vraiment, des politiques qu'ils veulent mener en Chine à ce moment-là. Donc, par exemple, on a l'imposition de 8 opéras modèles. Donc, en fait, on peut écouter que ces opéras modèles. On peut voir que ces opéras modèles, la musique... On disait musique jaune, en fait, c'est la musique un peu commerciale qui a été produite à Shanghai dans les années 20, qui va être également réprimée à Taïwan par les nationalistes quand ils vont prendre Taïwan, parce que c'est aussi une musique qui n'est pas culturellement adaptée à leurs valeurs un peu patriarcales.
Elle est presque trop moderne, quoi.
Ouais, c'est trop moderne, c'est trop. Il y a trop de liberté des mœurs. Ils n'aiment pas ça non plus, les nationalistes. Donc, en fait, c'est une musique qui est en fait à la fois combattue en Chine et à Taïwan, et qui trouve un peu refuge à Hong Kong à ce moment-là. Mais en tout cas, par exemple, ce qui est intéressant, je lisais récemment un livre d'un chercheur qui s'appelle Andrew Jones, un livre qui s'appelle Circuit Listening, un peu sur la musique populaire en Chine dans les années 60 et à Taïwan. Et en fait, il dit que dans les années 60, ce qui est intéressant, il va y avoir une forme de musique populaire prônée par les communistes qui va être extrêmement diffusée à ce moment-là, en 66, dans ces années-là.
Donc au moment de la révolution culturelle.
Pendant la révolution culturelle, qui s'appelle les chants de citation, qui sont en fait des chansons inspirées par les citations du Petit Livre Rouge.
Fun.
Ah, c'est assez fun. Bon, vous pouvez trouver ça aussi sur internet. Je pense qu'il y a des morceaux qu'on peut écouter. Et ce qui est intéressant, c'est que Jiang Tin, donc la femme de Mao, va critiquer très vertement ces chansons-là parce que elle dit qu'il y a ça ressemble à du swing. Qu'il y a une petite mélodie, un hook, quelque chose qui revient, et donc elle aime pas du tout ça. Elle dit que en fait les gens peuvent danser dessus et les gens doivent pas danser sur de la musique communiste. Et donc elle dit, il y a une très belle citation qui dit regardez, ils sont en train de danser du swing, ils pourraient être tout nus, ça serait la même chose. Donc il y a vraiment un problème en fait entre le parti et la musique à ce moment-là. Et c'est véritablement, comme tu as dit, à partir de 76, la mort de Mao, que va y avoir en fait une diversité des musiques populaires en Chine communiste.
Voilà, donc au décès de Mao, il y a quelqu'un d'autre qui prend le pouvoir qui s'appelle, alors attention, c'est tenter ma première prononciation, elle va forcément être hésitante, mais Deng Xiaoping.
Deng Xiaoping, ouais, voilà.
Et alors c'est pas non plus l'ouverture à pleine vanne, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait quand même une forme de libéralisation très légère qui va permettre la circulation de cassettes pirates, qu'elles soient européennes, mais surtout taïwanaise et hongkongaise, si j'ai bien compris.
Surtout Hong Kong et Taïwan, ouais.
Et c'est ce qui va permettre à la jeunesse de commencer à créer ses premiers groupes de rock. Et en parallèle de ça, il y a aussi des concerts officiels un peu phares qui sont négociés avec le parti communiste au pouvoir, donc... notamment dans ton livre, tu cites le concert de Jean-Michel Jarre. Je crois que c'est un peu le premier gros concert étranger en Chine. Alors, je crois qu'il en a fait deux à Pékin et à Shanghai.
Tout à fait.
Et voilà, ce que tu dis dans ton livre, c'est qu'à Pékin, c'est vraiment 15 000 Chinois qui regardent un peu perplexes comme ça Jean-Michel Jarre et qui ensuite partent avant la fin du concert, ouais. À 22h, parce qu'il n'y a plus de bus ensuite et qu'ils doivent rentrer chez eux. Donc voilà, c'est pas encore, on va dire, la fusion. Mais ensuite, en 83, il y a Wham de George Michael. Alors, je sais même, là, pour le coup, c'est pas un mot chinois, mais je sais même pas si je le prononce bien, son nom de
groupe. Wham, c'est ça.
Et en 86, un groupe de surf rock où va y avoir des échauffourées.
C'est vrai que en fait, effectivement, le concert de Jean-Michel Jarre, même s'il est important en fait dans l'histoire de la musique, en tout cas des relations musicales avec l'étranger, c'était pas vraiment ça. Les gens étaient pas si intéressés. Ensuite, il en a refait un, je crois, en 2008, à la Cité Interdite. Et là, il y avait beaucoup plus de monde. Mais effectivement, Wham, c'est vachement important parce que les gens connaissaient. En fait, à ce moment-là, quand ils arrivent, les cassettes pirates de Wham sont déjà là. Et donc, en fait, il y a vraiment des fans de Wham qui vont voir le concert et ça crée quelque chose. Et Jen and Dean, donc, c'est un groupe de surf rock qui, à ce moment-là, est déjà un peu vieux. Et,
moi, j'avais jamais entendu parler à titre perso. Ouais, c'est quand même fou que ce soit le troisième groupe qui joue en Chine. C'est un obscur groupe qu'on a un peu oublié, quoi.
On a un peu oublié. Il y a un documentaire. Alors, de tous ces groupes-là, il y a des documentaires qui existent sur leur tournée. Jean-Michel Jarre, c'est Concert in Beijing, je crois, un truc comme ça, Concert in China. Wham, c'est... le nom du documentaire, c'est Foreign Skies. Et Jen and Dean, je me rappelle plus, mais c'est aussi très intéressant, en fait, de voir comment c'est organisé, en fait, qui ils vont voir, en fait, et tous les officiels qu'il faut serrer les mains parce que c'est eux qui permettent au groupe de tourner. Et Jen and Dean, en fait, ils sont à Shanghai, donc ils font leur concert, et dans l'assistance, il y a beaucoup, voilà, d'étudiants et tout ça. C'est en, si je dis pas de bêtises, c'est en 84, je me rappelle plus exactement.
86, c'est écrit dans ton livre.
Ouais, c'est ce qui est marqué dans le livre, c'est vrai. C'est ma mémoire qui est fausse. Mais 86, en plus, ça fait sens parce qu'on n'est pas loin des mouvements étudiants. Et en fait, donc, c'est des étudiants shanghaïens qui sont au concert, et en fait, ils se lèvent pour danser. Et là, il y a les flics qui arrivent pour les arrêter parce qu'ils veulent pas que les gens dansent. Et en fait, on le retrouve aujourd'hui aussi. Hein. Donc, dans pas mal de concerts un peu officiels, on n'a pas le droit de se lever, de danser, d'agiter des drapeaux, des choses comme ça. Et donc, sinon, les flics ou les gardiens viennent vous arrêter. Et donc, il y a des gens qui sont arrêtés. Et en fait, il y a des échauffourées. Et donc, vous avez, si vous voulez, la première, en gros, mobilisation d'étudiants des années 80, c'est pour demander la libération des étudiants qui ont été emprisonnés pour cette levée pendant Jen and Dean. Donc voilà, il y a quand même un petit lien, si vous voulez, entre mobilisation étudiante et musique, mais c'est plus de l'anecdote, là.
Ouais. Et les mobilisations étudiantes et l'aspiration à un renouveau démocratique, ça vont continuer ensuite hein, dans ces années. Et jusqu'au mouvement de 1989, où là, en te lisant, on a vraiment l'impression que les rockers sont partie prenante, quoi, de ce mouvement. Alors, j'ai pas encore cité les plus connus, mais c'est peut-être le moment. Donc, par exemple, il y a Tsui Etien et son groupe... alors, c'est ADO ou ADO ?
ADO, comme ADO. Adolescent.
Son groupe ADO qui va se produire à Tiananmen et puis qui a écrit une chanson qui s'appelle « Tout recommencer » qui est très... enfin qui est très utilisé, enfin très chanté quoi, ou écouté par les, le mouvement visiblement. Il y a aussi Haeyong.
Ro-Young.
Je l'avais noté, mais je l'ai mal dit, avec son groupe Mayday. Ouais. Aussi qui se produit, et puis enfin, donc voilà, tu donnes un peu des exemples de ça, et jusqu'au moment, le 4 juin 89, où donc pour rappel, il y a en gros le massacre de ce mouvement avec un nombre qui est toujours non connu de morts à ce jour, mais qui est probablement très important, ouais. Et qui va marquer un peu comme un stop dans l'essor du rock chinois.
Voilà, c'est vrai que dans les années 80, en tout cas au milieu des années 80, il y a de plus en plus de groupes de rock qui se forment. Alors, surtout à Pékin, c'est donc la capitale un peu, c'est la capitale de la Chine, mais c'est aussi la capitale culturelle et contre-culturelle, si on veut. En fait, vous avez pas mal de groupes de rock qui commencent à se former, dont Sui Tian, donc qui lui-même est un enfant de musicien de l'armée. Mais la plupart en fait des groupes de rock à ce moment-là sont en fait des enfants de musiciens, donc en fait c'est finalement une carrière qui se poursuit dans la famille. Et donc Sui Tian, ce qui est important de savoir, c'est que donc le rock commence un peu dans l'underground comme d'habitude, et ensuite va connaître une popularisation croissante à partir de 86, quand Sui Tian participe à un concert de charité qui est retransmis à la télévision chinoise. C'était un concert de charité qui s'appelait Remplir le cœur d'amour, un truc comme ça. Et en fait, c'est un concert qui se fait au Stade des Travailleurs à Pékin, où il y a plein de chanteurs pop qui participent, et Sui Tian qui a été invité. Donc, il demande aux organisateurs est-ce qu'il peut chanter une chanson originale, pas une reprise, une chanson qu'il a fait lui-même. Et donc, il chante pour la première fois à la télévision cette chanson qui s'appelle Je ne possède rien, Yiwu Suoyo, qui devient instantanément l'hymne du rock chinois. C'est-à-dire que les gens l'écoutent en direct, ils n'ont jamais écouté, ils n'ont jamais entendu quelque chose comme ça, et c'est vraiment une détonation dans la jeunesse chinoise à cette époque-là. C'est-à-dire que les gens vont commencer à écouter Sui Tian, donc il enregistre deux chansons pour l'occasion, après le concert de charité. Ensuite, il va enregistrer un album qui va sortir en 89 avant le mouvement, qui s'appelle Rock'n'Roll sur la nouvelle Longue Marche.
Et la Longue Marche, c'est la référence au moment où le Parti communiste et Mao ont pris le pouvoir en Chine.
C'est le moment où en fait les communistes s'en vont, parce qu'ils sont réprimés par les nationalistes pendant la guerre civile, et donc ils s'en vont. Ils partent pour s'installer ailleurs dans le pays pour fuir la répression. Donc c'est une longue marche où beaucoup de communistes meurent à ce moment-là, mais qui a un peu forgé la tradition du communisme chinois, ou en tout cas ses légendes. Oui.
Et donc il reprend ça dans...
Dire que voilà, c'est une longue marche, en fait, finalement, ouais. L'arrivée du rock en Chine, c'est une longue marche, parce qu'on a subi beaucoup d'épreuves pour arriver jusqu'ici. Et donc, voilà, Sui Tian est très important. Et effectivement, les étudiants, quand ils vont à Tiananmen, ils chantent les chansons de Sui Tian. Sui Tian va effectivement à Tiananmen pour chanter, Ro-Young aussi. Il y a sur la place Tiananmen un autre rocker qui s'appelle Ho De-Tien, qui vient lui de Taïwan, qui s'est installé en Chine à ce moment-là et qui va rester sur la place jusqu'à la fin, notamment avec Liu Xiaobo, qui est connu pour avoir eu le prix Nobel de la paix, et mort en prison il y a quelques années. Et donc ouais, le massacre de Tiananmen, ça va couper un peu l'élan du rock chinois, parce que les artistes rock qui ont participé au mouvement vont se retrouver censurés dans pas mal de cas. Sui Tian, c'est compliqué de le censurer parce que c'est quand même le rocker le plus connu, mais il va pas pouvoir se produire à Pékin jusqu'en 2007.
Et ce que tu racontes aussi, c'est que du coup, bizarrement, ce qui prend la... Enfin, c'est pas si bizarre, mais en tout cas, ce qui prend la relève comme espace pour que l'Europe puisse s'exprimer, c'est les hôtels un peu chics et internationaux de Pékin. Donc, par exemple, qu'il y a un groupe qui est embauché par l'hôtel le plus chic de Pékin, qui s'appelle la Grande Muraille à l'époque. Enfin, voilà, que ça va être des endroits où il va y avoir une sorte de survivance de petits groupes de rock qui vont vivoter comme ça, ou je sais pas si c'est à peu près ça.
Ouais, c'est ça, parce qu'en fait les hôtels internationaux sont en capitaux mixtes, donc il y a des capitaux étrangers, et donc les policiers vont moins intervenir dans ces endroits-là, qui sont un peu des espaces un peu plus libre, si on veut. Et donc, les groupes de rock vont commencer, voilà, même dans les années 80 et ensuite, vont se produire là-bas parce qu'ils sont plus en sécurité pour se produire. Donc, il va y avoir ça, ce qu'on va appeler des parties. En chinois aussi, on va dire, aller dans une party. C'est voilà, faire un concert de rock dans ces endroits-là qui sont soit des hôtels internationaux, soit des bars, soit même parfois des ambassades. Par exemple, Tweetienne est connu pour faire des concerts les 14 juillet à l'ambassade de France pendant longtemps, dans les années 90. Donc c'est des endroits où il peut se produire, par exemple, et les autorités n'interviennent pas.
D'écouter le morceau Garbage Dump de Ho Young. Et maintenant, voici le morceau Lover's Prattle for Donghu de Wu Wei.
这个武汉呢是大家担心啊，这个要盖楼把自己湖给填了。对，这个之前没错，这个也是在这个之前就已经热议了一段时间了啊。那么这个说呢，要从 07年说这武汉为了解决大型的基建设施建设这个资金缺口，向银行借贷并且出让土地来还贷。那么随后呢，这个在深圳的一家这个房地产集团，这家房地产集团呢是华什么城，在中间那个字你认识吗？
我也不认识，你自己
认识哈。啊，反正就是却通过这个。非常规的
我在东湖划过船，我在东湖看日出，
我在东湖洗过澡。
脚。
我在东湖山观花，我在东湖拍过照，
我在东湖落过泳，我在东湖见过红。有人添了200亩，上边建了个欢乐谷。咱不让去散步，那就一起去高山宿，来东湖高山宿，我要去东湖高山宿，来东湖高山宿，一起去东湖高山宿，来东湖高山宿，我要去东湖高山宿，来东湖高山宿，一起去东湖高山宿。到醉，
我在东湖跳过舞，我在东湖学艺术，
我在东湖杀过鸟，我在东湖打过炮。有人添了200亩，上面建了个欢乐谷，
上面建了个欢乐谷。
警察不让去散步，就一起去高山宿，来东湖高山宿，我要去东湖高山宿，来东湖高山宿，一起去东湖高山宿，来东湖高山宿，我要去东湖高山宿，来东湖高山宿，一起去东湖高山宿。
On en arrive doucement au cœur du sujet de notre émission, qui est donc plutôt le punk. Et j'en profite pour dire, parce que j'ai oublié de le dire en intro, qu'on est trois dans la pièce. Donc il y a Nathanaël, moi, et il y a aussi Jocelyn qui fait partie de Musique en Lutte avec moi. Et du coup, j'avais préparé le début, mais là, on va passer sur une conversation plutôt plus ouverte à trois. Voilà, donc ne vous étonnez pas s'il y a une nouvelle voix qui apparaît dans la suite. Et du coup, on en arrive au punk chinois. Et peut-être, c'est un peu... J'imagine qu'on te pose souvent cette question, mais toi, comment t'es tombé dedans ?
Ah bah, en fait, je suis parti en Chine, c'était en 2007 la première fois, pour étudier à l'université à Pékin, le chinois, pour apprendre le chinois. Et à cette époque-là, en 2007, c'était un peu la période, depuis quelques années, du renouveau un peu de la scène alternative pékinoise. Enfin, chinoise plus généralement, mais surtout à Pékin, parce qu'il y avait la création de nouveaux lieux, de nouveaux espaces, de nouveaux bars et tout ça. Et en fait, à côté de l'université de Pékin où j'étais, il y avait un bar qui s'était ouvert l'année d'avant, je pense en 2006, qui s'appelait le D22, qui a été ouvert par Michael Pettis, qui est un Américain, qui était prof d'éco, qui est toujours prof d'éco d'ailleurs, à l'université de Tsinghua, je crois, à Pékin. Et en fait, il avait ouvert ce bar pour un peu produire la nouvelle scène rock de ces années-là. Et en fait, tous les jours, quasiment tous les jours, en tout cas toutes les semaines, tous les week-ends, il y avait des concerts, vraiment tout le temps, avec des groupes qui sont aujourd'hui assez célèbres. Des groupes de rock, des groupes de punk, des groupes de post-rock, il y avait plein de choses qui se passaient à ce moment-là. Et c'était vraiment une scène en pleine ébullition, en fait. Il y avait des choses qui se passaient, on était avant les JO, il y a des gens qui prenaient la parole, qui disaient des choses dans ces espaces-là. Et pour moi, ça a été une révélation. Je me suis dit, ah, mais c'est possible de voir ça. C'est vachement plus intéressant que mes cours à la fac. On apprend un autre niveau de chinois qui est beaucoup plus intéressant. On fait plein d'expériences, plein de rencontres, et en fait ça m'a donné envie d'en savoir plus sur le mouvement, en tout cas le mouvement punk, parce que c'est ça qui m'intéressait aussi à cette époque-là. Et en fait c'est là où j'ai vu les premiers concerts de groupes. Voilà, si vous regardez, si vous êtes un peu familier de la scène chinoise, il y avait Car Sick Cars à l'époque qui jouait, Joyside, Demerit, The Car, PK14, enfin voilà, des groupes qui sont aujourd'hui vraiment très importants, qui ont construit la scène alternative chinoise. Et en fait, c'est pas là qu'ils ont commencé, parce qu'ils avaient commencé avant, mais en tout cas, c'est là qu'ils ont un peu éclos et qu'ils ont été aussi produits, parce que le D22 a aussi été à l'occasion la production d'un label indépendant qui s'appelle Maybe Mars, qui depuis a été racheté, mais qui a produit toute cette scène-là à cette époque. Et c'est grâce à eux quand même qu'on a une certaine forme d'archive musicale de ces années-là. Parce qu'ils ont produit tous les groupes du D22, donc voilà, c'était assez important. Et c'est comme ça que je suis rentré un peu dans le punk chinois.
Pour revenir sur sur les débuts du punk, comment c'est à quelle époque, à quel moment, il me semble que c'est arrivé autour de début des années 90, peut-être même 1992, que le punk commence vraiment à apparaître. Et il me semble qu'il y a tout un ensemble de facteurs et conditions qui amènent ça.
C'est ça, c'est compliqué vraiment à dire à quel moment précis c'est arrivé, quels sont les groupes précisément qui ont développé la scène punk. En gros, on dit au milieu des années 90, entre 95 et 96, qu'on a les premiers groupes de punk qui se produisent en tant que groupe de punk. Alors, on a tendance, dans les témoignages rétrospectifs ou dans la littérature scientifique, à dire que c'est à Pékin que le punk a commencé. En vrai, c'est plus compliqué. Il y a quand même une concurrence entre Pékin et Wuhan pour dire quel est le premier lieu du punk chinois. C'est compliqué, on va dire que en gros, ça c'est arrivé au même moment dans ces deux villes et de manière non connectée. Il y a différents facteurs qui ont joué. À Pékin, c'est assez simple à comprendre, c'est-à-dire qu'on a une scène rock indépendante qui est là depuis les années 80, qui a développé des lieux. Donc on parlait du CD Café juste avant, donc ce café qui a été ouvert par Liu Yuan, le trompettiste de Tsui Tien, et c'est un lieu voilà, où les gens peuvent faire des concerts en fait. Et donc on a toute une scène dans les années 90, rock, post-rock, grunge, pas mal grunge, qui en fait éclot à ce moment-là avec des groupes comme The Fly ou Catcher in the Rye, qui en fait, ou Xie Tian Xiao, qui ont en fait un son très grunge qu'on pourrait presque qualifier de proto-punk, voilà, qui sort à ce moment-là et qui joue en fait au CD Café et tout ça. Il faut savoir qu'à ce moment aussi, on a l'arrivée de CD et de cassettes de l'étranger qu'on appelle DACO. Ça veut dire quoi? En fait, c'est des CD, des cassettes qui viennent de l'Occident. En fait, les labels occidentaux produisent trop de CD et de cassettes, il y a trop d'invendus. Et donc, qu'est-ce qu'ils font avec ces invendus? Ils les envoient par cargo en Chine pour être recyclés en tant que déchets plastiques. Donc, ils arrivent dans le sud de la Chine, en gros vers Shantou, Shenzhen, en fait, qui sont des zones économiques spéciales. Et en fait, les douaniers pratiquent une incision, une encoche sur ces CD ou ces cassettes, en pensant que ça empêchera ces cassettes d'être revendues sur le marché noir. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas pris en compte le fait qu'un CD se lie du centre à la périphérie. Voilà, c'est comme ça qu'on lit un CD dans un lecteur de CD. Et donc, si vous faites une encoche sur le bout du CD, en fait, vous ne pouvez pas écouter que la dernière chanson ou les dernières chansons. Et donc, c'est quand même écoutable. Donc, en fait, au lieu d'être détruits et recyclés, ces CD et ces cassettes vont se retrouver revendus sur le marché noir des principales villes chinoises. En gros, on date ça, c'est arrivé entre 92 et 93. Et en fait, c'est un boom incroyable. C'est dans toutes les villes chinoises, on va pouvoir acheter des CD et des cassettes d'Inco à des prix défiant toute concurrence. Parce que soit ces CD et ces cassettes étaient censurés par le pouvoir, qui voyaient ça comme de la pollution spirituelle, soit c'était beaucoup trop cher, parce que vous avez de la musique classique aussi qui s'est retrouvée vendue en tant que CD d'Inco ou cassette d'Inco, et qui était trop cher pour être achetée par des mélomanes, même des profs à la fac de musicologues achetaient des CD d'Inco de musique classique, parce que sinon ils pouvaient pas se le permettre. Donc c'était très peu cher, et donc ça coûtait quand même quelque chose, hein, mais c'était très peu cher. En plus, ça variait, c'est-à-dire qu'avec le suicide de Kurt Cobain, les cassettes de Nirvana se sont revendues super cher. Donc voilà, il y a quand même une espèce de marché qui s'est créé à ce moment-là. Et donc vous avez en fait toutes ces musiques qui arrivent, toutes ces musiques que personne n'avait jamais écoutées, du rock, du métal, du post-rock, de l'électro, du rap, du punk, et donc en fait les gens prennent ça, écoutent un peu au hasard, et en fait se rendent compte, ah ça c'est pas mal, et en plus il y a des gens qui écrivent des fanzines, et donc pour présenter les groupes de rock, les groupes de punk qu'on entend et qu'on peut trouver sur ces marchés noirs, donc va y avoir toute une culture de la musique alternative qui va se développer à ce moment-là, et donc grâce à ça, grâce aussi à Hong Kong et à Taïwan, hein, parce qu'il y a aussi des rockers hongkongais, Beyond, un énorme groupe de rock hongkongais, qui va être super célèbre à ce moment-là dans les années 90 en Chine, qui arrive de manière pirate aussi, et en fait les gens écoutent beaucoup plus Beyond que Tsuiten à ce moment-là. Donc en fait vous avez toutes ces coïncidences de différents facteurs, le fait qu'à Pékin il y a déjà des rockers, il y a des endroits où performer, à Wuhan c'est différent, c'est-à-dire c'est des gens qui sont plutôt qui sont plutôt des prolétaires, des enfants d'ouvriers, qui sont plutôt liés à des pratiques mafieuses et qui à travers ces pratiques-là vont pouvoir ouvrir des espaces où les flics vont pas venir les déranger. Vont pouvoir ouvrir des espaces de répétition, des espaces où se produire en concert, et dans des bars, dans des karaokés, des choses comme ça. Et donc en fait vous avez l'apparition en fait d'une scène punk à Wuhan et à Pékin dans ces moments-là. Et donc on dit en gros que Underground Baby ou Under Baby ou Dissinger dans le chinois est le premier groupe de punk pékinois, et SMZB ou Shangming Jobbing, donc la galette de la vie, est le premier groupe de punk à Wuhan. En gros, ils font leur premier concert entre 95 et 96 en tant que groupe de punk. Dissinger, donc Under Baby, enregistre une chanson qui s'appelle Do Yang, tous pareils, qui est la première chanson enregistrée du punk chinois, si vous voulez, et qui est distribuée, en tout cas qui est inclue dans une cassette et un CD qui s'appelle China Fire 2, qui est une sorte de compilation du rock indépendant chinois à cette époque-là. Mmh. Donc on voit en fait les liens entre les punks et les rockers, parce qu'en fait ils se font produire en fait par les rockers. Et donc dans cette compilation, il y a les premiers groupes de grunge, il y a aussi des vieux groupes de rock, voilà. Et donc on voit un peu les liens entre les deux. Donc voilà, c'est ce moment-là, le milieu des années 90, jusqu'à la fin des années 90, où il y a vraiment des bars punk qui s'installent, vraiment exclusivement punk. Donc vraiment, on a une scène punk qui a ses propres lieux, ses propres manières de s'organiser, ses propres labels aussi, parce que un bar qui s'appelle Scream Club, qui est ouvert entre 97 et 99 en gros, va créer un label qui s'appelle Scream Records, qui va produire les premiers groupes de punk chinois et aussi les premiers groupes de hip-hop.
Et maintenant, petite pause musicale avec le morceau Do Ye Young du groupe Under Baby.
Il y avait cette question de cette difficulté surtout de trouver des lieux à ce moment-là. Il y a cet exemple du club du chanteur de SMZB, Wu Wei, tu as parlé brièvement, qui peut être peut-être un bon exemple de comment ce type d'endroit réussit à se monter, à perdurer.
Alors ouais, effectivement, à Wuhan, c'est particulier, mais en fait, ça marche aussi un peu partout. Et par exemple, dans le cas de Wuhan, donc le batteur de SMZB, qui s'appelle Juning, a créé à un moment, il s'est dit, en fait, on n'a pas vraiment de lieu à nous. On peut faire des concerts, on peut boire des coups et tout ça. Et donc, il crée un lieu qui s'appelle le Vox, qui a changé plusieurs fois d'endroit, jusqu'à s'installer à côté des universités à Wuhan, dans le quartier de Wuchang, qui est toujours là d'ailleurs. Et qui maintenant est assez grand. À l'époque c'était vraiment très petit, maintenant c'est très grand. Où en fait il y a plein de groupes qui passent. Et donc le batteur de SMZB ouvre ce lieu-là. Et donc ce qui va vraiment aussi être un lieu où les gens vont pouvoir se retrouver, pouvoir aussi répéter et se produire en concert. Et ensuite à côté du Vox, il y a un autre endroit, un bar qui s'appelle le Wuhan Prison. Donc, qui lui a été géré par Wu Wei, donc le chanteur de SMZB pour le coup, et qui est un bar aussi où il y a des concerts, et c'est vachement intéressant aussi de voir que voilà, c'est des lieux qui permettent en fait à la scène de se retrouver ensemble, de boire des coups, de faire des choses, de dire aussi des choses, de s'échanger voilà, des magazines, des CD, des machins et tout, de se produire en concert aussi, vraiment de boire. Et de discuter, et je pense que c'est vachement important en fait, ces lieux pour créer une scène et pour créer un collectif. Ouais, c'est des lieux qui sont vachement importants et qui sont toujours ouverts, donc c'est bien que ça puisse rester malgré toutes les pressions, que ça soit toujours là. Ouais.
Et du coup, le mot Wuchang Prison,
Wuhan Prison,
Wuhan Prison, ça fait référence au quartier, c'est ça? Ou un peu à comment il est, à l'imaginaire de la ville.
Ouais.
Parce que, enfin, dans un de tes articles, tu parles pas mal de ce rapport que, en tout cas, SMZB et peut-être les groupes punk de la ville de Wuhan entretiennent avec la ville. Je sais pas si tu veux en dire un mot ou quoi.
Ouais, carrément. Non, c'est vrai, c'est important, en fait, cette relation avec la ville. Wuhan Prison, ça fait référence à une chanson de SMZB qui s'appelle Wuhan Prison. Et c'est un thème qu'ils reprennent pas mal dans pas mal de leurs chansons, notamment Da Wuhan, donc Grand Wuhan, où en fait ils disent voilà, Wuhan est une grande prison à ciel ouvert, et on aimerait qu'un jour elle soit libre et belle. Et en gros, c'est ça, c'est de dire, c'est ce rapport un peu compliqué à la ville, où en même temps, rien à voir, mais ça me rappelle une chanson de La Rumeur où il dit Paris nous nourrit, Paris nous affame. En fait, c'est voilà, c'est ce rapport-là avec la ville. C'est la ville nous nourrit parce que c'est dans ces lieux-là qu'on peut faire des choses, qu'on arrive à trouver des espaces où se produire et tout ça. Mais en même temps, c'est des lieux aussi d'enfermement. Justement, pendant le Covid, ça a été quand même pas mal le cas à Wuhan, où en fait, on se sent oppressé aussi parfois par cette ville, surtout Wuhan qui est à la fois humide et froide pendant l'hiver et humide et chaude pendant l'été, parfois on se sent mal et du coup c'est aussi un moyen de se réapproprier en fait cet espace urbain, mais pas que à Wuhan, en fait à Pékin aussi vous avez le groupe Démérite, donc qui est un groupe, en fait le chanteur vient de Qingdao qui est donc une ville côtière et donc il s'est installé à Pékin dans les années 2000. Et notamment dans une banlieue qui s'appelle Tongzhou. Et donc voilà, cette banlieue, il en a fait aussi une chanson, Tizi Generation, Tongzhou Generation, voilà, qui dit aussi ce truc, c'est une banlieue pauvre, et pourtant, en fait, ici, on y est libre, on a réussi à ouvrir des espaces, on a réussi à se former en tant que collectif, se rencontrer, faire des choses. Et donc voilà, c'est toute cette ambivalence vis-à-vis de l'espace urbain, c'est à la fois, c'est un lieu qu'on déteste, et c'est un lieu qui est important pour la création, en fait.
Oui, effectivement, dans ce genre d'endroit un peu paradoxal, il y en a un aussi qui est un très bon exemple, je pense, de ce qui s'est passé, c'est le centre autonome de la jeunesse, à Wuhan, toujours. Voilà, qui s'est implanté du coup dans ce quartier qu'on qualifie de quartier prison ou ville prison, voilà, qui s'est établi notamment pour se battre contre la spéculation immobilière qui est dans ce quartier, du coup aussi proposer pas mal de types d'activités différentes, on se rapproche presque d'un squat, j'ai l'impression, par certains aspects. Peut-être tu peux aussi nous en parler en détail.
Je pense que c'était justement l'idée de Mike Dien, celui qui a créé, donc qui était un guitariste d'un groupe de punk wuhanais qui s'appelle Sedole Play to Dave, et aussi les 400 coups Sebaiti, qui lui est parti en tournée en Europe, notamment avec SMZB, en Allemagne, pas mal dans les années 2000. Il y a d'ailleurs des cassettes de cette tournée-là. Produite en Allemagne, de SMZB et de Sedole, qui ont été qu'on peut retrouver, moi j'en ai retrouvé quelques-unes, et en fait il a vécu dans les squats là-bas pendant sa tournée en Europe, et en rentrant à Wuhan il s'est dit est-ce que en fait on pourrait pas essayer de faire un peu la même chose. Alors c'est un peu compliqué à Wuhan et en Chine en règle générale, c'est d'ouvrir un squat. On est très vite confronté en fait à l'institution policière de manière un peu violente. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a loué une bâtisse qui est un peu en ruine dans le quartier de Donghu, donc qui est le lac de l'Est. Donc il y a un quartier un peu plus au nord de Wuchang. En gros, ça met 10 minutes en bus pour aller du Wuhan Prison jusqu'à cet endroit. En fait, c'est une bâtisse qui est un peu en ruine dans un quartier qui est agricole, et donc en fait c'était très très peu cher, et donc ils ont ouvert une espèce d'espace qui ressemble un peu à ce qu'on a dans les squats, où en fait les gens pouvaient venir dormir, pouvaient venir manger de manière totalement gratuite, pouvaient emprunter des livres de bibliothèque autogérés, organiser des concerts, organiser des événements et tout ça. Et donc ça c'était vachement important aussi pour créer en fait une sorte de sentiment collectif parmi la jeunesse un peu alternative de Wuhan, ce moment-là. Et en fait le truc c'est que à Donghu, donc dans le lac de l'Est, il y a eu des projets immobiliers en fait de construction de Luna Park et d'hôtels un peu chics. Donc il y avait un projet immobilier mené en fait par une compagnie qui est très corrompue et donc qui ont essayé d'exproprier des zones protégées du lac de l'Est qu'ils n'auraient pas dû exproprier avec l'aval de la mairie de Wuhan. Et en fait en 2010...
Pour la pépite, c'est un projet qui s'appelle Happy Valley, c'est ça ?
Happy Valley,
voilà,
c'est
juste
ça.
Pour profiter un peu de l'ironie. Oui, en 2010, pardon.
Et en 2010, en fait, il y a un article de presse d'un quotidien du sud de la Chine qui révèle en fait la corruption de ce projet immobilier. Et donc, il va y avoir en fait tout un mouvement d'essai de défense du lac de l'Est, qui est notamment porté par les punks qui habitent dans le coin, dans le quartier. Et donc, Maïdien, avec son centre autonome de la jeunesse, va être un peu à la pointe de ce mouvement de défense du quartier. Et contre les expropriations, et donc ils vont organiser des événements, ils essaient d'organiser des manifestations, donc un truc qui s'appelle en fait un peu des c'est une forme de manifestation d'action collective qui est assez spécifique à la Chine, c'est-à-dire on se promène tous ensemble, parce qu'on n'a pas le droit d'organiser une manifestation, mais on a le droit de se promener. Donc on se promène, mais on est tous ensemble, sans banderole et sans slogan. Mais on se promène. Et donc c'est beaucoup de gens qui se promènent dans un endroit, ça ressemble à une manifestation, mais ça n'en est pas une. Et donc ils essayent de faire ça, bon, ils sont rattrapés par la police, la veille de la manif, il y a des policiers qui viennent interroger le chanteur de SNZB dans son lieu de travail pour lui dire il faut pas faire ça et tout ça. Et donc bon, bref, ils essayent de se mobiliser collectivement et finalement ce qu'ils font, c'est ils font des projets de sauvegarde du lac de l'Est et de documentation de son expropriation où ils vont prélever de l'eau, ils vont prélever de la terre du lac de l'Est pour essayer de montrer voilà quel impact écologique ça a. Ils essaient de monter des projets artistiques et en fait il y a tout un entre 2010 et 2015, il y a eu plein de projets artistiques tout autour du lac de l'Est pour essayer d'alerter les citoyens sur en fait l'avancée de ces expropriations. Et l'impact écologique en fait de ce projet qui a malheureusement eu lieu.
Mmh. C'est ça ce qu'on dirait. Enfin, je ne sais plus si c'était vraiment inspiré par ou ça reprenait les mêmes codes, mais ça ressemble beaucoup à ce qu'il y a eu à la ZAD. Il me semble en tout cas que la personne qui agissait ce centre et qui faisait partie prenante de cette lutte pour le lac aussi était inspiré de certaines théories qui venaient genre type ce qui a pu être
produit par le comité invisible.
Oui, voilà. Je sais pas. C'est bien ça.
Tout à fait. En fait, c'est en fait les idées et les pratiques sont pas clos sur un espace géographique. Ça circule beaucoup. Et en fait, dans ces zones là et dans ces communautés là, ça circule énormément. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se retrouver, des pratiques, mais aussi des textes. Qui vont être traduites. Donc, par exemple, les livres du Comité Invisible ont été traduits en chinois. Ils ont été publiés la plupart soit à Hong Kong, soit à Taïwan, mais ils sont arrivés en Chine. Et donc, moi, quand je suis allé voir le Centre de la Jeunesse, ils avaient le Comité Invisible dans sa traduction chinoise. Et en fait, voilà, il y a plein de liens entre les différents collectifs anarchistes ou libertaires qui existent dans ces zones-là. C'est-à-dire que les Japonais, ils sont très au courant de ce qui se passe en Chine, et ils sont en lien avec eux. Quand je suis allé une fois à Tokyo, au Irregular Rhythm Asylum, qui est donc cette espèce d'infoshop à Tokyo anarchiste, tenu par un anarchiste qui s'appelle Kei, il avait en fait les écrits des gens de Wuhan. Et des gens de Taipei, et quand je vais voir les gens de Taipei, en fait, ils connaissent très bien les gens du Japon, de Hong Kong, de Wuhan et de Pékin. Donc en fait, ça circule énormément, et en fait, même ce qu'on produit en France, les ZAD qui ont été expérimentés ici, en fait, les idées et les manières de faire ont circulé et on en parle en fait soit en Chine, soit au Japon, soit à Taïwan. Donc voilà, ça circule tout le temps. Et je pense que de la même manière, c'est important aussi que ça circule dans l'autre sens, c'est-à-dire les tactiques du mouvement hongkongais, elles ont aussi été analysées en France. Yeah.
Voilà, c'était le morceau de Demerit dont nous parlions un peu plus tôt, intitulé Tizzy Generation. Et maintenant, un autre morceau que l'on a évoqué, Wuhan Prison de SMZB.
Peut-être une question dans le rapport à la police. T'en as parlé plusieurs fois, mais voilà, c'est assez présent dans les textes et aussi parfois physiquement, quoi. La police intervient pour empêcher un concert. Enfin, voilà, comment ça se passe et à quel point les paroles peuvent être explicites aussi dans la critique du potentiellement des dirigeants. Est-ce qu'il y a des formes de censure ou est-ce que voilà, il y a des groupes qui sous la pression se sont un peu assagis, ou enfin voilà, quel est le rapport à la conflictualité et à la police dans la scène punk, quoi.
Alors, c'est une très bonne question. Je pense que le rapport à la police, il est protéiforme. Il y a plusieurs rapports à la police et à quelles institutions policières ou institutions répressives. Il y a un rapport dans les textes où il y a beaucoup de punk qui ont des paroles contre la police dans leurs textes, contre les institutions étatiques en règle générale, mais aussi beaucoup contre la police, parce que c'est les premières personnes qu'on rencontre, des instruments répressifs de l'État, qu'on rencontre en vrai dans ces milieux-là. Donc il y a un rapport dans les textes, il y a un rapport lors des concerts, parce que parfois la police arrive. Alors, ça, c'est de moins en moins le cas, mais ça a été beaucoup le cas à une certaine période au début du punk. Ça a été de nouveau le cas dans les années 2015, en fait, après l'accession au pouvoir de Xi Jinping en 2012. En fait, en 2015, il y a eu une recrudescence des interventions policières dans les bars et dans les clubs. En fait, les policiers venaient, faisaient pisser tout le monde pour voir qui avait pris de la drogue et fermaient les bars si jamais il y avait eu des consommations de drogue avérées. Et donc voilà, il y a ces choses-là. Les policiers peuvent aussi intervenir pendant un concert en disant bah, c'est fini là maintenant, on arrête le microphone, on n'aime pas ce que vous faites et tout ça. Et le plus souvent, dans des festivals. Donc les punks ne se produisent pas souvent dans les gros festivals. Il y a des festivals rock qui sont organisés en Chine, de plus en plus hein, ces derniers temps, mais on pourra y revenir. Les punks ne sont pas toujours invités parce qu'ils sont un peu problématiques étant donné les paroles, donc parce que ça s'en prend beaucoup aux institutions policières, aux institutions d'État. Et donc même dans les festivals de rock indépendants, les punks ne sont pas souvent invités. Mais quand ils sont invités, là ça peut être intéressant. Par exemple, je crois que j'en parle dans mon livre. En 2018, il y a donc SMZB, donc ce groupe de Wuhan qui va à un concert, à un festival, le festival Midi de Shenzhen, en décembre 2018. Et donc, ils sont... Donc, en fait, si vous voulez, quand on fait un concert comme ça, officiel, dans un festival où il y a la police qui est là, parce qu'ils sont là pour gérer les foules, mais aussi, ils donnent l'autorisation. Il faut passer les textes à la censure. Donc les policiers vont te dire ouais, cette chanson là t'as pas le droit de la chanter, cette chanson là t'as pas le droit de la chanter, cette chanson là ok. Donc ils ont dû se faire approuver leur chanson. Il y a beaucoup de chansons qu'ils ont pas pu chanter, et à un moment ils décident de chanter une chanson en disant voilà, et ils ont pas voulu qu'on la chante mais on va la chanter quand même, et ça s'appelle, c'est une chanson qui s'appelle Smash His Statue, donc qui est briser sa statue, donc briser les statues de Mao Uro. Et donc ils chantent cette chanson. Et là, au bout de 2 secondes, il y a le son et la vidéo derrière eux qui sont coupés. Et donc le son du chanteur est coupé, et là, il y a les 10 000 personnes qui sont au festival, qui reprennent la chanson eux-mêmes. Donc c'est un très beau moment, mais en même temps, ça montre en fait comment en fait l'intervention peut se faire. Et donc, c'est un peu ça les relations. Alors, c'est des relations qui ne sont pas toujours conflictuelles, c'est-à-dire qu'il y a toujours une marge de négociation aussi. C'est-à-dire, dans certains, alors à l'époque ça se faisait beaucoup plus que maintenant, dans certains cas on peut aussi donner des bakchiches aux institutions policières pour qu'ils viennent pas. Donc les organisateurs de concerts parfois ils donnent de l'argent aux flics, aux bureaux municipaux de la culture pour pas qu'ils interviennent à ce moment-là. Donc voilà, il y a toujours moyen aussi de négocier à un moment, voilà. Donc ça se passe comme ça. Et sur l'autocensure des groupes, je pense qu'aujourd'hui en fait c'est très particulier, c'est-à-dire qu'on est dans une période où il y a eu pas mal d'émissions de télévision, de télécrochets sur des sites internet de streaming chinois. Il y en a une qui est très connue qui s'appelle The Rap of China, en fait, qui a permis l'éclosion un peu du rap au niveau mainstream en Chine. Aujourd'hui c'est une des musiques les plus populaires et les plus écoutées grâce à ces émissions-là. En fait, il y a eu la même chose pour le rock indépendant, c'est-à-dire qu'il y a eu 3 saisons d'une émission qui s'appelle The Big Band, où il y a beaucoup de groupes de rock indépendants, underground, quelques groupes de punk, mais pas beaucoup, qui ont participé à ces émissions-là, et qui sont devenus extrêmement populaires du jour au lendemain. Et donc, dans ces émissions, ils ont bien entendu dû censurer leurs paroles. C'est-à-dire qu'il y a certaines paroles qu'on retrouve pas. Alors, les gens les connaissent, les paroles d'avant, mais on voit, en fait, qu'ils ont dû changer quelques trucs, quelques paroles et tout ça. Et donc, en fait, c'est le prix à payer pour être populaire, ou au moins vendre... des places de concert, parce que c'est compliqué en fait de vivre de sa musique quand on a un rocker indépendant en Chine. Et donc grâce à ces émissions-là, en quelque sorte, eux, ils arrivent en fait, après des années de galère, à pouvoir en fait vivre de leur musique. Alors en contrepartie, bah, faut censurer. Donc voilà, c'est est-ce que les groupes sont prêts à accepter ça ou pas, c'est tout le problème. Et là, je peux pas dire ce qui va arriver parce que c'est assez récent.
Il y a cet aspect que certains groupes commencent à avoir une musique plus édulcorée ou plus sage peut-être. Et est-ce que ça génère des conflits à l'intérieur de cette scène punk quand on commence à... Quel rapport ça fait entre peut-être des groupes qui, eux, continuent une revendication plus radicale et prennent ce chemin?
Ouais, j'ai discuté. Alors, ça dépend. Il y a certains groupes où vraiment qui veulent pas participer, pas édulcorer leurs propos et qui tiennent en fait une ligne qui est très bien, hein, qui est tout à fait respectable. et qui vont critiquer certains groupes qui passent et qui édulcorent leurs propos ou se désolidariser des groupes qui participent en fait à ces émissions et qui vont pas jouer avec eux et tout ça. Il y a d'autres groupes que j'ai interrogé sur ça qui sont des groupes qui sont très purs dans leur relation en fait aux politiques, au commerce et tout ça, et qui vont dire bah on peut pas complètement leur jeter la pierre. En fait, ils ont galéré pendant 15 ans, ils ont failli se séparer plusieurs fois parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, et maintenant ouais, ils arrivent à faire un peu d'argent, bah on va pas leur jeter la pierre quoi. Ils font ce qu'ils veulent, s'ils ont envie, et c'est pas grave quoi. Et peut-être qu'ils reviendront à l'underground à un moment, voilà, c'est pas il y a plein de groupes qui ont fait ces choses là c'est-à-dire qui ont à un moment ont accepté pas de se compromettre, mais au moins accepter de l'argent pour faire des choses, pour faire des pubs. Il y a des groupes qui ont fait des pubs pour Levi's, qui ont fait des pubs pour Eban et tout ça, et parce qu'à un moment ils avaient besoin d'argent et qui ensuite sont revenus à l'underground après. Et donc en fait c'est pas un processus statique, c'est dynamique. Et alors bien sûr il y a des gens qui critiquent la participation à ces médias là, mais en même temps comme c'est un petit milieu aussi, bah, y a toujours moyen de revenir en fait.
On arrive à la fin de cet entretien, et une dernière question pour toi, Nathanaël, c'est: si jamais tu devais partir sur une île déserte avec une seule chanson, laquelle tu prendrais et pourquoi?
Alors c'est à la fois c'est évident et en même temps c'est compliqué, parce qu'il y a énormément de chansons que j'apprécie à des moments différents aussi, et pour des qui me confèrent des émotions différentes, mais effectivement le disons l'évidence, ça serait Scream for Life, donc qui est effectivement le titre du livre, et qui est aussi le titre d'une chanson de SMZB, donc de Wuhan, qui est chantée en anglais pour le coup, et qui pour moi est une forme, d'une certaine façon, l'hymne du punk chinois, et assez incontestée, c'est-à-dire que tout le monde connaît cette chanson, il y a eu beaucoup de reprises de cette chanson, et en fait c'est une chanson qui marque la fin de tous les concerts de SMZB. C'est la dernière chanson, c'est là où il y a tout le monde qui pogote, il y a tout le monde qui stage dive, c'est vraiment c'est le moment de communion parfait entre le groupe, l'auditoire, les membres du groupe et tout le monde. En fait c'est ce moment là, c'est Scream for Life, et en gros la chanson, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il faut crier pour la vie, c'est le titre, mais crier en fait pour les gens qui peuvent pas le faire, qu'il faut s'emparer du micro pour parler des problèmes que les gens rencontrent dans leur vie, qu'il faut crier contre l'injustice, et qu'il faut crier en fait pour que les gens puissent se faire entendre. Et je pense que ça c'est un peu la mission que s'est donnée le punk chinois depuis ses débuts, et j'espère que le punk chinois continuera à avoir cet objectif là.
Bon bah, on pouvait pas imaginer un meilleur mot de la fin. Merci beaucoup pour ce moment.
Merci à vous.
C'était passionnant.
C'était le morceau Scream for Life du groupe SMZB. Et maintenant, pour finir, un morceau foncièrement anti-police de Mizandao, intitulé Soul of the Chinese Cops. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4 FM pour l'émission Musique en lutte. Pour nos dernières rubriques de ce mois-ci, voici donc la rubrique lecture ou librairie, comme vous voulez. En tout cas, ce mois-ci, on vous présente Tine Party, les éditions Tine Party. Mais de manière assez brève, voilà, c'est une maison d'édition qui nous vient de Creuse et de Lyon, fondée en 98. L'année dernière, ils ont sorti notamment le guide d'autodéfense numérique, une œuvre d'un collectif anonyme de personnes qui travaillent depuis plus de 10 ans sur les questions liées à la surveillance numérique et aux moyens de la contourner. Plus récemment, ils ont sorti Radio Hit Yourself, un petit manuel technique d'autonomie radiophonique que l'on vous conseille. Mais ce mois-ci, pourquoi on vous en parle, c'est aussi qu'ils ont sorti en 2021 un ouvrage qui se nomme « En Chine avec Green Day ». Et il a été donc écrit par Aaron Comet Bus, très connu car c'est un des auteurs principaux américains de la culture fanzine punk do it yourself. Et voilà, je vous ai choisi un court extrait qui se trouve à peu près au milieu du livre, donc en Chine avec Green Day. Trey, Mike et Billy ont grandi dans des circonstances difficiles. Ce n'est cependant pas quelque chose dont ils parlaient beaucoup, jusqu'à ce que Green Day soit accusé de s'être vendu. Mais même là, ce sont les journalistes qui ont abordé le sujet, pas le groupe. Ils ont présenté le succès de Green Day comme une ascension sociale fulgurante et ont traité les critiques du groupe de gamins gâtés à l'abri du besoin. Cette description était plus ou moins valable, mais elle s'appliquait également à la vaste majorité des nouveaux fans de Green Day. De toute façon, le problème n'était pas là. Green Day n'était pas une simple histoire de gamins pauvres qui s'en étaient sortis à la seule force de leurs bras. Ils avaient été aidés de bout en bout par tout un réseau de personnes qui travaillaient sans être payées. Ce dédain du profit était une des choses qui rendait la scène punk unique. Green Day n'aurait jamais tourné ni sorti de disque s'ils avaient essayé de suivre une carrière traditionnelle. Dresser le groupe contre les puristes qui le critiquaient était une manière facile d'éviter toute vraie discussion sur les majors ou sur les différences entre classes. C'était toujours la même merde, le grand mythe américain. La décision de Green Day de signer avec Warner Brothers était présentée comme une conclusion allant de soi. Et si quiconque remettait cela en question, c'était un zélote ou un fou.
les grands médias prenaient plaisir à traiter les valeurs du do-it-yourself comme une chimère ou une blague. Bien sûr, cela revenait à jeter du sel sur les plaies des punks, ce qui accentuait leur impression d'avoir été utilisés. Trey et Mike étaient capables d'encaisser. Mike ne s'était jamais tant investi que ça dans la scène punk et Trey s'en foutait, tout simplement. Du moins, c'est ce qu'il aimait faire croire aux autres. Billy était vulnérable car il se souciait vraiment de ce que pensaient les gens. C'était l'une des personnes les plus sensibles que je connaissais, totalement inapte au succès et à la pression qui vient avec. Une mauvaise critique l'affectait plus qu'un stade plein de fans hurlants. Un copain d'enfance manifestant à l'entrée d'un concert de Green Day fut suffisant pour lui briser le cœur. Billy ne se remit jamais de son sentiment de rejet. Plus il se sentait persécuté, plus il devenait paranoïaque. Il commença à prendre toute critique comme une attaque personnelle. Green Day se replia sur lui-même. Ils ont serré les rangs et sont devenus une famille comme celle de Trey, avec une mentalité à la « nous autres contre le reste du monde ». S'ils n'avaient pas eu d'ennemis, ils en auraient inventé, car rester sur la défensive leur permettait de facilement ignorer les doutes qui les traversaient. Et maintenant, je laisse la place à Adrien pour notre classique liste d'événements à venir.
Alors, bonsoir. Alors, on commence avec deux événements qui ont lieu demain, vendredi 26 avril. Le premier rendez-vous à partir de 19h pour le vernissage de l'exposition « Papier pour les sans-papiers, un air de voyage » dans le cadre d'un projet avec des artistes engagés sur les problématiques sociopolitiques autour des réfugiés. Le vernissage sera suivi par DJ Cyrine et RA.ZH de 22h à 1h. Et ça se passe à The Dyson Club dans le 9e à Paris. Le second événement aura lieu au Tamanoir à Gennevilliers et c'est le groupe de Sidi Wacho qui est... un groupe du coup de cumbia hip-hop balkan engagé. Ouais, ça c'est quand même un style. Ils viendront notamment présenter leur nouvel album. Ils seront accompagnés en première partie du groupe Komasi, dans un style cumbia, mandingue et afrobeat psychédélique. Ça promet de bien bouger. L'entrée est de 12€ et de 15€ sur place. Du 27 avril au 5 mai se tiendra le festival Intersquat Île-de-France, qui aura lieu à la Trotteuse à Pantin. Au programme des cantines, des projections, des discussions, des ateliers et des moments festifs. Avec notamment le mardi 30 avril à 21h, la fanfare Invisible, bien connue des mouvements sociaux. Mais aussi le vendredi 3 mai à 21h, une soirée boom. On ne sait pas grand chose de cette soirée, mais il faut tenir au courant. Vous pouvez suivre le programme car beaucoup d'événements de toutes sortes sont prévus pendant cette semaine. Le samedi 4 mai, de 16h à 22h, a lieu le festival et village des associations citoyennes, Musique Aligre, organisé par l'association La Commune Libre d'Aligre. Ils proposeront plusieurs concerts allant des chants de la commune, en passant par le pop-rock, et pour finir par de l'afrobeat. 9 groupes sont programmés. L'événement se tiendra à la mairie du 12e, l'entrée est libre. Alors pour suivre, du vendredi 17 au dimanche 19 mai se tiendra le festival des murs à pêche à Montreuil pour fêter sa 22e édition. Dans une zone encore sauvegardée des promoteurs immobiliers, vous pouvez retrouver des installations artistiques, des performances, mais aussi des spectacles et des concerts. Il fait toujours bon de s'y promener et au détour d'une parcelle tomber sur un spectacle non prévu. Par contre, je vous conseille de venir avant 17h parce que la jauge se remplit très vite. Du coup, voilà, on arrive à la fin des événements. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site web musiqueenlutte.noblogs.org. Et merci à vous d'avoir écouté jusque-là l'émission. Et d'ici là, on se retrouve le jeudi 23 mai pour une nouvelle émission. Allez, merci, bonne soirée à vous.
The sound system, how to solve the problem of inequalities in a world full of boundaries. Let's take action, cause your meditation won't bring the revolution. Won't bring it. Justice, hey, sound.
Sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste.
It's the most beautiful, ugly sound in the world.
Vous êtes à l'écoute d'Epsilonia sur Radio Liberté, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. Radio Libertaire 89.4. C'était Psylonia. Vous êtes à l'écoute d'Epsilonia, Epsilonia, 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 Epsilonia,